Chapitre 10e. Prépare-toi une toute petite surprise, dit à Simone la petite bossue qui venait de descendre 6 étages pour acheter le petit quotidien. La pipelette vient de me remettre une dépêche.
Oh, vous venez d'hériter d'une bonne tante de province, mademoiselle Lambaumé. Tu vas fonder un atelier de couture.
Non, pas. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une petite maison avec un toit qui aurait de la mousse dessus. Puis,
mais tu ne devines pas? C'est signé Bamberg.
Donne vite, dit Simone, plantant de travers sur ses cheveux un bout de paillasson fleuri de primevère. Et moi qui allais sortir?
Non, je veux te lire ça. C'est court, mais si éloquent. Arrive ce soir, 9h, gare de Lyon, Bamberg.
Oh, ma petite Lambaumé, que je t'aime.
Parbleu.
Le visage penché sur l'épaule de son amie, mademoiselle Gosselet lut le petit bleu, puis s'en empara, le caressa des doigts, le baisa, rougissant.
Oh, ma petite Lambaumé, c'est aujourd'hui dimanche, heureusement. Si la dépêche était arrivée hier, toute une bonne journée de joie perdue. Étant de corvée le soir à l'atelier, je n'aurais pu lui sourire, la première.
Oh, ma petite Lambaumé, je vais le revoir, ce soir, dans quelques heures. Je t'aime bien.
C'est entendu.
Tu vas voir, il sera pâle, avec de grands yeux tout battu. Moi, je me cacherai près de la porte qui donne sur le quai. Il t'embrassera, te demandera si je suis heureuse, si père m'a pardonné, si je n'épouse pas le russe qui a une tante au Caucase, si... Alors, je m'approcherai, doucement, puis lui mettrai mes bras autour du cou. Mais il doit être si faible, mon André. Pourra-t-il supporter pareille joie?
Qu'un homme qui vient de faire 200 lieues en chemin de fer se trouve mal parce qu'une jolie fille se jette à sa tête, voilà qui serait fort.
Comme tu dis ça, je ne suis pas une jolie fille pour lui. Je suis sa fiancée, sa femme. Ce n'est pas moi qu'il tiendra dans ses bras.
Il l'embrassera. Il aura tout le bonheur rêvé, toute la vie telle qu'il l'a voulu.
Pourquoi pleures-tu, ma bonne petite amie? Parce que tu es heureuse pour moi.
Oui. Et aussi c'est parce que c'est comme dans le feuilleton de mon journal.
Oui, mais dans les romans, la félicité de l'héroïne est faite de souffrances subies par d'autres. Tandis que dans la vie...
Dans la vie, c'est la même chose, mademoiselle. Il y a dans votre roman M. Gosselet et aussi Mme Gosselet.
Oh, des souffrances d'argent, voilà tout.
C'est vrai, mademoiselle. Tu te permets de me dire vous, de m'appeler mademoiselle. Ce n'est pas gentil. Tu ne veux pas que je sois tout à fait heureuse.
Je veux m'habituer à ne plus tutoyer Mme Bamberg.
Mme Bamberg.
Ces 5 syllabes firent plus roses les joues de Mademoiselle Gosselet. Elles sonnèrent si délicieusement à ses oreilles qu'elle les répéta tout bas plusieurs fois avec des intonations diverses.
Madame Bamberg.
Bamberg allait bien à sa beauté faite de demi-perfection assemblée en un tout presque harmonieux. Le mot avait une personnalité fière, élancée. Elle était heureuse du pavillon qui couvrirait et peut-être excuserait sa manière d'être, de penser. Elle sentait en elle toutes les qualités de la femme, la pitié, la pudeur, qui n'est qu'une forme délicieuse de faiblesse, le besoin d'aimer et de protéger. Mais l'éducation qu'elle avait reçue l'obligeait à manifester les désirs de son être sous une forme indépendante, personnelle et même un peu querelleuse.
Madame Bamberg.
Elle se coifferait d'un petit feutre mou un peu campé sur l'oreille, si peu. Porterait des lainages sans fioritures. Serait vaillante dans la vie comme un petit homme. Ne deviendrait femme qu'en son home. Elle garderait à son mari toute la séduction féminine que d'autres dépensaient en menu monnaie, dans la rue, au spectacle, en soirée.
« Je veux m'habituer à ne plus tutoyer Madame Bamberg », avait dit la petite bossue.
Devant l'attitude boudeuse et faussement humiliée de son amie, Simone sourit.
« Pourquoi ne plus me tutoyer ?»«
Devenue Madame Bamberg, je resterai, Simone. »«
Si je ne le fais pas pour vous, je le ferai pour Monsieur Bamberg. »
Et tu en veux à Monsieur Bamberg?
Non, mais je continuerai à dire vous, je vous avertis.
À votre aise, mademoiselle.
Mais vous continuerez aussi à m'aimer, mademoiselle.
Lambaumé.
J'oublie votre nom de famille.
Oh, ce n'a pas d'importance.
C'est une brouille que vous voulez?
Je sais que Lambaumé est un surnom d'atelier, mais le surnom est joli. Voilà pourquoi je l'ai adopté.
Simone relut le télégramme tout haut. Arriverait ce soir, 9h. Regarda la pendule, puis demanda
« Mais qu'est-ce que nous allons faire jusque-là? Vous êtes certaine que votre pendule ne retarde pas, mademoiselle ?»
Lambaumé sourit déridée par l'impatience de Simone, répondit, malicieuse, « Je crois même qu'elle avance un peu. Si j'avais du travail, un corsage à achever, quelque chose de... Que vas-tu faire? Pardon, qu'allez-vous faire ?»«
Ce que je fais tous les dimanches, nettoyer ma chambre à fond et frotter mon parquet avec de la carbonade. »
On ne dit pas de la carbonade, mais du carbonate.
Oh, allez donc demander ça à l'épicier, qui sait bien comment cela se prononce, puisqu'il en vend.
Simone, un peu étonnée de la mine bourrue et du ton agressif de son amie, si douce d'habitude, n'essaya pas de faire comprendre à la petite ouvrière que les épiciers n'avaient jamais fait l'Oise Langue. Elle imagina, pour gagner du temps, un nouvel arrangement de ces éventails japonais qui semblaient être groupés deux à deux, d'immenses papillons posés sur les bouquets de fleurettes du papier de tenture. Elle rendit visite à toutes les pauvres fleuristes de son quartier pour trouver une botte de lilas blanc qu'elle éparpilla dans deux aiguères de faïence achetées chez un bric-à-brac et drapa les vieilles indiennes imprimées qui servaient de double rideau à la fenêtre. Elle profita de l'absence de l'embaumé, partie à l'achat des provisions, pour enchemiser de fine toile les deux oreillers de sa couchette et étaler sur le lit tous les blancs de la toilette qu'elle mettrait le soir pour aller au-devant de l'aimé. Elle était si heureuse de pouvoir se donner déjà, lui clos, en faisant plus accueillante, plus blanche et plus fraîche sa chambre de fiancée. Le déjeuner fut silencieux. Les deux amis vivaient sous les frisons de leur front penchés en des pensées bien différentes. La petite bossue songeait que la venue brusque d'un homme allait changer sa vie, que cet homme la ferait souffrir en lui prenant son ami, qu'il ne saurait jamais ses tristesses d'amoureuse dédaignées. Et pourtant, elle était heureuse de souffrir pour André, heureuse aussi de souffrir pour Simone. Les pauvres femmes contrefaites comme elle ne pouvaient et ne devaient que se dévouer. Ses fleurs la consoleraient, ces fleurs qui se sacrifiaient, elles aussi, dormant tout le parfum, toute la coloration, tout le velours de leurs pétales à une pauvre bossue. Simone se promettait d'écrire à bon papa Gosselet, de lui conter ce qu'avait fait le petit ingénieur sans le sou pour la mériter, rêvant un retour triomphal à l'usine. Le soir venu, elle gagnèrent à pied la gare de Lyon. Dans la salle d'attente, une pendule marquait 8h30. Elles prirent place sur une banquette, voulant attendre patiemment le défilé des voyageurs. Mais à chaque coup de sifflet des locomotives de service sur la voie, elles se précipitaient vers la grande porte vitrée donnant sur le grand hall d'arrivée, puis, déçues, revenaient s'asseoir, les yeux fixés sur le cadran dont les aiguilles se mouvaient par soubresauts, semblant impatientes, elles aussi. 9h enfin. Près du quai, une machine s'arrêta, respirant bruyamment de tous ses poumons d'acier essoufflés. La porte claqua, des têtes parurent inquiètes, puis des corps habillés burlesquement de plaides et de couvertures de voyage. Les débarqués se précipitèrent dans la salle, maugréant, se bousculant. Des sacs de nuit, des valises pendaient au bout de leurs bras longs, donnant aux hommes affairés des allures tortillardes, obligeant les femmes à marcher lourdement comme des cannes qui vont à l'eau. Sous les feutres mous, les visages masculins se masquaient d'une ombre. Les femmes avaient sous leurs voilettes la même physionomie mystérieuse. Debout près de la porte, Simone et l'embaumée cherchaient des yeux, inquiètes. Une voix dit soudain derrière elle « Eh bien, mademoiselle l'embaumée, j'ai donc bien vieilli. Vous ne m'avez pas reconnue. » Elles se retournèrent. Simone se jeta dans les bras d'un complet gris. André Bamberg baisa le front de l'aimé, les lèvres de l'aimé répétant « Comment ? C'est toi, c'est toi ?» Simone, les bras noués autour du cou de son fiancé, restait muette, les yeux levés très doux, très grands. Ils pleurèrent, puis se sourirent, et leurs lèvres dirent des choses banales.
« Je ne m'attendais pas à te voir, c'est gentil.
Tu n'es pas fatiguée ?» La petite bossue attendait, tournant presque le dos aux amoureux enlacés. Des groupes se formaient autour d'eux. Des femmes disaient haut « Bah, ils ne se gênent pas !»
André se dégagea de l'étreinte de Simone et tendit la main à l'embaumé qui murmura « Vous allez bien ?»«
Très bien. Allons-en vite, vite, prenons une voiture. Il y a trop de monde autour de mon bonheur. »
Un cocher ailé, André ouvrit la portière du fiacre, aida Simone à prendre place sur les coussins, puis monta sur le marchepied, oubliant l'embaumé. Il s'aperçut de l'attitude interdite de la petite bossue, voulut redescendre pour lui permettre de monter dans la voiture, mais la petite faiseuse de sourire s'excusa.
« Non, non, je veux prendre l'air. Je serai bien sur le siège. »
Elle ajouta. « Cocher, 104, rue Monton-du-Vernay. » La voiture partit en un gémissement de sa caisse disjointe au petit trot d'un cheval boiteux qui heurtait tous les pavés de sa patte malade. Simone, le front posé sur l'épaule d'André, dit à mi-voix « Ne parle pas, mon aimé, si tu veux. Plus tard, nous causerons de tout. » Elle ferma les yeux pendant qu'André lui baisait les cheveux, doucement. Brusquement, elle s'éloigna de lui d'un écart du buste. « Je ne repose pas sur l'épaule blessée, dit. Mais non, je suis tout à fait guérie maintenant. Mais où allons-nous ? » Elle leva sur lui ses yeux mouillés de larmes douces, puis dit, triomphante, câline, « Chez nous, mon André. » Sur le siège, le cocher faisait la cour à l'embaumée.